Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
C'est une... on est encore sous le choc, hein ?
Tout à fait.
C'est une institution qui a plus de 100 ans, Sophie, la consécration suprême pour un scientifique. Mais certains s'interrogent, n'est-il pas temps d'abandonner le prix Nobel ?
Voilà, les critiques enflent depuis l'automne dernier. Une poignée de scientifiques s'est particulièrement agacée lors des derniers lauriers. Aucune femme récompensée, ça n'est hélas pas nouveau. Et surtout, trois physiciens couronnés pour une découverte ayant impliqué plusieurs centaines de scientifiques de 90 institutions, les ondes gravitationnelle. Aujourd'hui paraît un livre aux États-Unis signé par un cosmologiste, Brian Keating. Losing the Nobel Prize met les pieds dans le plat. Il y a quelques jours dans Nature, deux scientifiques canadiennes signaient une tribune tout aussi explosive. Pour elles, le Nobel, censé récompenser des personnes ayant apporté de grands bénéfices à l'humanité, n'influence pas de façon significative le progrès de la science.
Alors, quels sont les arguments de ces anti-Nobel ?
Le premier, c'est que le prix n'a pas su évoluer. Le Nobel n'est plus moderne. À l'heure de la méga-science, le mythe du chercheur solitaire qui se réveille en criant « Eureka » est mort. Désormais, la recherche réclame d'énormes équipements, des décennies d'avancées lentes et des collaborations multiples. Or, l'Académie royale des sciences de Suède continue de récompenser des individus, trois maximum par discipline. Après les ondes gravitationnelles, cette règle posera à nouveau problème avec CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques. On parle pour cette découverte d'un futur Nobel, mais on peine à isoler trois pionniers. Autre problème majeur, l'absence de femmes. Je dis l'absence car avec 3% de lauréates en 116 ans, on ne peut même plus parler de sous-représentation. Pourtant, 50% des neurones de la planète appartiennent bien à des femmes, n'est-ce pas ? Parmi les sacrifiés de l'histoire, Jocelyn Bell, astrophysicienne britannique, découvreuse du premier pulsar. Devinez qui a eu le Nobel à sa place en 1974, son directeur de thèse. Même scénario pour Vera Rubin, découvreuse de la matière noire, et Rosalind Franklin, dont les images de l'ADN par diffraction des rayons X n'auraient pas permis à Crick et Watson de découvrir la structure en double hélice de l'ADN. La médaille pour eux, l'oubli pour elles. Troisième critique, le réel impact de ces nobélisés. Éclairés par les projecteurs à 60, 70, voire 80 ans, on ne peut pas dire qu'ils soient des modèles attractifs pour les jeunes. Leur prestige ne sert pas tant devant des amphis d'étudiants que dans des conseils d'administration d'entreprise ou à conseiller des politiques, selon Brian Keating. Il leur reproche aussi, à certains en tout cas, de s'égarer dans le tourbillon de la popularité.
La double hélice, là aussi.
Linus Pauling, Nobel de chimie en 1954, prenait à la fin de sa vie de fortes doses de vitamine C pour venir à bout du cancer. Monsieur Montagnier, co-découvreur du virus HIV, était plus tourné vers les pouvoirs de la papaye fermentée. Si, comme pour la médaille Fields en mathématiques, il n'y a pas de Nobel en mathématiques, on fixait à 40 ans l'âge limite pour décrocher la timbale. Nul doute qu'on aurait plus de Cédric Villani.
Et dernière question, que proposent les dynamiteurs ?
Clara Fiala et Eleftherios Diamandis suggèrent l'abandon pur et simple du Nobel au profit d'un système qui promeut la collégialité, la collaboration et l'humilité. Brian Keating demande la réhabilitation des oubliés par une attribution posthume et pour la physique, sa spécialité, il suggère de ne récompenser que des découvertes fortuites. Ça s'appelle la serendipity, en anglais, l'Amérique de Christophe Colomb en somme.